avec votre esprit. Gloire à toi, Seigneur.
À ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint tombe et son vêtement devint une blancheur inouïssante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus à la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Il fut saisi de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et des vêtements, je ne sais pas ce qu'ils entendent. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelque temps, je partageais et je parlais avec l'un d'entre vous et la personne faisait allusion à certaines de mes prédications à la télévision. Alors il disait comment quand je prêchais, je gesticulais et aussi j'étais frappé comment quand je levais la voix et que je parlais fort, j'ouvrais grandement les yeux. Alors, je suis parti vérifier, j'ai regardé effectivement. Il y a des moments où quand je commence à être excité, là, mes yeux sont comme de grosses billes comme ça qui s'ouvrent puis qui regardent. Je dis, mon Dieu, je ne savais pas que j'avais ce visage-là. Voyez-vous, le visage, c'est toujours les autres qui le voient. Maintenant, je vois le vôtre, je ne peux pas voir le mien. Et vous ne pouvez pas voir le vôtre. Moi, je le vois, vous voyez mon visage. Et c'est comme ça continuellement dans la vie. Mais nous pouvons voir notre visage dans le miroir et aussi par la photo, la vidéo. Mais par contre, même quand nous voyons notre photo, il y a toujours un brin d'hésitation. C'est comme si ce n'était pas tout à fait nous autres. C'est pas comme si ce n'était pas tout à fait notre visage. Regardez, deux fois, nous voulons que notre visage rayonne et donne l'image que nous voudrions être, que nous voudrions que les autres perçoivent. Voyez-vous, depuis l'ancienne Égypte, en passant par les différentes cultures de la terre, les cultures les plus lointaines, les hommes et les femmes ont toujours inventé des vêtements, des modifications corporelles pour changer leur visage, pour répondre aux besoins de ce qu'attendent les gens, de leur image, de leur visage. Regardez, nous avons le cosmétique aujourd'hui. Nous avons des poudres, des parfums, des rouges à lèvres, nous avons des anneaux, nous avons des bijoux de toutes sortes. Et aujourd'hui, ce qui est en vogue, c'est le tatouage d'une certaine génération. C'est pour donner, refléter l'image que les gens attendent de certaines personnes, surtout dans le monde des artistes. Mais en fait, quand on réfléchit vraiment, le visage est ce qui exprime notre identité profonde. Le visage devrait dire ce que nous sommes en réalité. Le visage nous révèle, dit qui nous sommes. Le bandit, quand il veut poser son acte, il peut mettre une cagoule. Il ne veut pas se faire connaître. Et nous, ça arrive, quand nous sommes en vacances, surtout des personnes d'une grande renommée qui ne veulent pas être reconnues, ils peuvent mettre une casquette, de grosses lunettes en fumée, et puis des lunettes fumées, et puis bon, pour justement passer un peu à inaperçu, ça peut arriver. Le visage révèle qui nous sommes. Si je vous parle du visage, c'est parce que chaque année, dans l'évangile de la transfiguration, on nous donne les différents récits. C'est le même récit, mais des versions différentes. Matthieu, Marc, Luc. Mais dans la version de Luc que nous venons de lire, Luc met l'accent sur le visage de Jésus. Il dit que Jésus était en prière, et quand il priait, du coup, son visage a pris un autre aspect. Et les apôtres qui étaient là ont été saisis, ont été transformés. En fait, à ce moment-là, Jésus reflétait son identité profonde, son identité réelle, reflétait sa vérité profonde. L'enfant qui est né à Bethléem, celui qui a été refoulé à Nazareth, celui qui faisait des miracles, qui prodiguait des conseils, celui qui chassait les démons et qui annonçait la parole de Dieu, qui annonçait le royaume de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Et sur le mont Tabor, il révèle en réalité son identité, son intimité profonde. Alors à ce moment-là, ceux qui l'entouraient ont pu se rendre compte à qui ils avaient affaire. Qui était celui qui avait choisi les 12, qui était celui qui passait de village en village, qui était celui qui passait le monde en faisant le bien, eh bien, c'était le Fils de Dieu. Et voilà qu'il reflétait cette image-là sur le mont Tabor. Mais ce n'est pas tout. Alors que ce visage était changé, transfiguré, voilà qu'à ses côtés se trouvait Moïse d'un côté et de l'autre Élie. Moïse qui représente la loi, qui représente la parole de Dieu, qui représente le Pentateuque. Élie qui représente cette lignée des prophètes. Et ils entourent Jésus comme Jésus sera entouré sur la croix par deux bandits. Mais eux l'entourent, les personnes qui sont venues de l'Ancien Testament, comme pour dire Jésus est le Messie qui accomplit et la parole de Dieu et la loi, et il accomplit aussi les prophéties. Et ces deux personnes-là se mettaient en dialogue avec Jésus. De quoi parle-t-il? Luc nous dit qu'il parlait de son exode, de son départ vers le Père, de son destin, de ce pourquoi il est venu, qu'il allait ouvrir la voie du ciel pour permettre à ses disciples d'aller dans le même sens. Aujourd'hui, cette réalité-là se présente à nous. Jésus veut se transfigurer, veut se révéler en nous durant cette célébration eucharistique. Et il voudrait le faire avec tout son être, pour que nous en soyons saisis. La plupart des auteurs, quand ils font cette réflexion sur la transfiguration, ils ne cessent de rappeler que Jésus a permis cette révélation-là aux trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, pour leur donner la force, pour leur donner assez de résistance, pour que quand viendra le moment de la passion, le moment, le scandale de sa mort, que ces personnes-là, grâce à ce qu'ils auront ramassé à la transfiguration, qu'ils soient en mesure de faire face et d'avancer et jusqu'à recevoir la bonne nouvelle de la résurrection. En fait, Jésus nourrissait ses disciples à ce moment-là d'une forte espérance qui pourrait les porter, les propulser jusqu'à faire face au moment de ses souffrances les plus terribles. Mais il y a le pape François qui donne aussi une bonne explication, que j'ai beaucoup aimée. En fait, il a donné en 2015 dans l'Angélus. Il dit, pour l'évangile d'aujourd'hui, retenons deux choses. La montée et la descente. Il dit la montée parce que les trois apôtres sont montés avec Jésus au sommet de la montagne. Il y a eu la transfiguration, le changement, où les apôtres eux-mêmes sont appelés à la transfiguration, au changement, où les apôtres ont ouvert leur cœur. Ils ont entendu la voix du Père, écoutez mon fils bien-aimé. Et en écoutant cette parole-là, leur cœur a été changé, a été transfiguré. Ils sont devenus d'autres personnes. Mais écoutez, ils ne sont pas restés au sommet du mont Tabor, dit le pape, mais ils étaient obligés de descendre. Il fallait descendre dans la plaine. On ne reste pas sous le mont Tabor. Ce qu'on reçoit sous le mont Tabor, c'est pour aller le partager, le vivre avec les autres dans la plaine. Alors il dit, nous autres là, chaque fois que nous venons dans la célébration eucharistique, chaque fois que nous prions, nous mettons en prière comme Jésus, nous sommes transfigurés par le Père, nous sommes touchés par la bonne nouvelle, nous écoutons la voix du Père, la parole de Dieu vient nous chercher, la parole de Dieu vient nous changer. Et quand cette parole de Dieu nous a changé durant l'Eucharistie, nous ne restons pas toute notre vie dans l'Église, nous ne restons pas tous les jours dans cette Église comme nous sommes maintenant. Mais quand la messe est finie, quand nous sortons de ce sommet-là, alors nous sommes appelés à descendre, à aller dans la plaine. Alors dans la plaine, c'est là que nous allons trouver tant de frères et de sœurs qui sont en proie, qui sont ployés dans les peines, les misères, qui sont ployés dans les maladies, qui ont des problèmes avec la pauvreté spirituelle, la pauvreté matérielle, des personnes qui souffrent des injustices. C'est à ce moment-là que nous sommes appelés à porter cette bonne nouvelle, cette transfiguration qui doit changer notre visage, qui doit changer tout notre être, cette lumière que nous recevons durant l'Eucharistie, que nous recevons en écoutant la parole de Dieu, cette lumière-là doit nous transformer, nous transfigurer, de sorte que notre visage reflète ce que nous sommes en réalité, des fils et des filles de Dieu. Si nous sommes des fils et des filles de Dieu, c'est pour que, quand nous regardons les autres, ils voient cette lumière de générosité, de tendresse, de bonté qui reflète notre visage, parce que la lumière vient du tréfonds de nous-mêmes. Et cette lumière, c'est la lumière des baptisés, c'est la lumière du Christ lui-même qui nous invite à transfigurer les autres. Nous vivons des moments difficiles. Après cette messe, nous allons descendre dans la plaine. Et dans la plaine, nous ne pouvons pas ignorer le massacre qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande. Quand nous descendons sur cette montée de l'Eucharistie, nous savons le visage transfiguré, changé, et nous descendons comme fils, filles de Dieu. Pourquoi ? Pour prendre les paroles de Saint François d'Assise. Là où il y a la haine, que j'apporte l'amour. Là où il y a le désespoir, que j'apporte l'espérance, l'espoir. Là où il y a les ténèbres, que j'apporte la lumière. Et cela, nous le saisissons, nous le prenons à partir de l'Eucharistie, à partir de l'Évangile. Et nous, quand il y a des tueries, des massacres, dans notre foi chrétienne, nous n'acceptons pas. Le Seigneur nous invite à vivre la fraternité. Le Seigneur nous invite à vivre la réconciliation. On ne tue pas une personne parce que la personne prie sa foi, parce que la personne s'exprime. J'ai beaucoup aimé le partage des évêques du Québec qui disent, écoutez, il faut revenir sur la liberté de religion, la liberté d'exprimer, de vivre sa foi telle qu'on l'entend. C'est cette liberté-là qu'il faut encourager pour toutes les religions, pour toutes les personnes qui ont leur foi, qu'ils aient la liberté de s'exprimer. Mais nous, disciples du Christ, ce que nous disons, c'est que nous sommes appelés à les contre-courants. Comme disait Saint François, là où il y a la haine, nous nous amenons un autre message. Mais ce n'est pas tout. Quand nous descendons de cette montagne sainte, transfigurée, changée, notre visage qui éclairé par la parole de Dieu, alors nous allons faire face aux jeunes qui se sont rassemblés vendredi dans le monde entier, qui crient fort et qui disent que notre planète est arrivée à minuit, l'heure c'est minuit. Ah, il faut faire vite pour sauver la planète, qu'il faut prendre en considération les enjeux de l'environnement. Les jeunes nous invitent aujourd'hui, les jeunes surtout de la génération Z, ils veulent rappeler à nous qui avons le pouvoir, qui avons les rênes dans les mains pour le futur, de rappeler qu'il faut faire tout pour sauver cette planète. Vous vous rappelez quand le Seigneur a créé l'homme et la femme, quand le Seigneur a créé, il a d'abord fait l'environnement avant de créer l'homme. Il a d'abord préparé l'environnement. Ensuite, après l'environnement, alors il a créé l'homme et la femme. Alors nous autres là, nous sommes en train de détruire notre maison. C'est que les jeunes nous rappellent aujourd'hui, faisons attention, nous risquons de tous brûler. En descendant de cette montagne, nous voulons, avec ce cœur transfiguré, avec ce visage changé, nous voulons accueillir le message des jeunes et nous voulons participer à travailler pour le bien de la planète, pour la vie future, pour les générations à venir. Il y a encore cette souffrance. Quand nous allons descendre de cette montagne, nous n'allons pas oublier la souffrance des personnes qui sont dans la plaine. Ces personnes qui, encore aujourd'hui, continuent à réclamer les restes des leurs, avec l'accident qui a eu lieu il y a une semaine, l'accident d'avion, que des souffrances, que de peine de voir que on ne peut pas faire une célébration funéraire sans quelque chose de leur. Alors ils sont en train d'attendre avec impatience, d'attendre dans les pleurs. Et nous ne voulons pas rester indifférents. Quand nous descendons, quand nous avons été transfigurés, changés par le Seigneur, habités par la parole de Dieu, quand nous descendons dans la plaine, nous descendons avec le message de transfiguration, le message de compassion, le message d'amour, le message de bonté. Mes amis, dans la messe d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de vraiment nous changer, nous transfigurer par sa parole, et que quand il nous aura changé de l'intérieur et que notre visage aura changé, aura pris le visage d'amour, de paix, d'amitié, que quand nous allons sortir de cette église et que nous rentrons dans notre milieu, que nous apprenions nous aussi à transfigurer notre milieu, à changer nos familles. Amen.